Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poirette sur RTL.
Il est 9h38.
Maison, jardin, cuisine, brocante, dans cet ordre-là, s'il vous plaît, dimanche matin. Thierry, Sébastien, Églantine et Laetitia. Thierry, bonjour et bonjour,
bonjour
à tous, bien sûr.
Bonjour, bonjour Bernard, bonjour
Thierry
tout le monde.
Denis, si les auditeurs jardiniers veulent de belles récoltes, est-ce qu'ils doivent fertiliser leur jardin ?
Dans bien des régions, c'est indispensable. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir un potager dans la brousse, dans l'abri, là où la terre est grasse et généreuse.
C'est vrai.
Les terres d'Écosse et du Cantal sont plus maigrichonnes. Mmh.
Oh que oui, loin d'être plaines, fertiles, les sols français sont parfois chiches. Mmh. Pensez à la jolie Sologne bourbonnaise, plus riche de sable et de dalles d'argile que
d'humus. On en parlait hier.
Voilà,
oui, absolument.
Et puis les côtes calcaires de Bourgogne, qui sont surtout célèbres pour leurs cailloux.
Absolument.
Donc oui, fertiliser son jardin quand la terre est maigre, c'est une très bonne idée.
Alors moi je ferais du compost, Thierry, c'est une bonne idée ou pas?
C'est un peu la réponse politiquement correcte que l'on serine à tour de page dans les magazines de jardinage.
Si on peut plus leur faire compost.
Mais en pratique, les jardiniers, n'ont pas toujours le temps de faire du compost. Mmh. Ou de le faire bien, parce que du compost raté, c'est monnaie courante. Et surtout, il est très rarement possible d'en faire assez.
Ça, vous en êtes certain ?
Bien sûr. D'ailleurs, ceux qui sont les références en bio et en permaculture sont les premiers à le reconnaître, que ce soit la célèbre ferme du Bec des Loings en Normandie, ou les jardins de la Grelinette au Canada. Alors voilà ce qu'ils nous disent, ces pros. Mmh. Le compost fait chez soi dans les règles de l'art, c'est bien, mais il est rare qu'il suffise pour nourrir tout le jardin.
Mais alors c'est quoi la solution raisonnable ?
Églantine, faire ce qu'on a toujours fait en France depuis des millénaires. Mettre du fumier pur, ou un mix de fumier compost végétal.
Mais du vrai fumier, c'est une denrée extrêmement rare en ville. Ça doit peut-être être trouvable, j'en sais rien. Je suppose qu'il faut l'acheter en sac dans les jardineries.
Oui, mais attention. N'achetez pas n'importe quoi. Mmh. Les meilleurs fumiers sont les sacs de fumier déshydratés, en gros granulés. Ça ressemble franchement à ceux qu'on donne à manger à son chien.
Ah oui,
ces fumiers sont ultra légers, car il n'y a pas d'eau dedans.
Ouais.
Ils sont sans odeur et sans graines de mauvaises herbes. Alors, les marques les plus connues sont Bovisol, Fume-terre et Fume-bien, mais il y en a d'autres.
Fume-terre et Fume-bien, c'est dans un bateau.
Sur l'histoire, là, Thierry, des fumiers en granulé, ça s'étale comment dans le jardin ?
À la main, Sébastien, en les lançant à la volée. Alors, quand on le fait en hiver, les pluies ont le temps de les dissoudre et ils s'enfoncent dans le sol.
Mais le chien ne va pas les manger ?
Ah, ils aiment bien ça un petit peu. Ils aiment bien. Alors, mais ça ne leur fait pas de mal. Alors, quand on le fait au printemps, il est préférable de grisper la terre après pour qu'elle soit enfouie tout de suite, à bonne portée des vers de terre.
Fume-terre, fume-bien et Bovisol. J'adore les noms poétiques de ces fumiers naturels. C'est extraordinaire, qu'ils vont fertiliser nos jardins. Merci beaucoup Thierry. Sébastien Demorand, alors c'est presque un week-end spécial tartare que vous nous proposez depuis hier. Hier, on a eu un tartare de veau absolument top, avec plein de bonnes choses dedans. Vous remettez le couvert en nous proposant un tartare plutôt sévèrement iodé.
Voilà, de la fraîcheur.
Donc ça va peut-être s'apparenter, un ceviche péruvien.
Non, ça je vous l'ai fait il y a 15 jours déjà. Non, fraîcheur et simplicité, je pense évidemment à Laetitia, 2-3 bricoles au marché, comme je dis toujours. C'est une recette, j'insiste, qui doit impérativement être faite au dernier moment avec des produits ultra frais. Alors, je vous ai souvent parlé, vous en souvenez peut-être, de ces huîtres qu'on appelle les spéciales,
bien sûr.
Bien charnues. Pour une fois, ce matin, moi je vais prendre, vous proposer, des numéros 3, et non pas des 2, qui sont normalement mes préférés.
Ouais.
Les 3, vous le savez, sont donc un tout petit peu plus petites. Et on va les associer tout simplement à un petit mélange de poisson. Voilà,
de poisson. Et alors, il va falloir commencer par ouvrir les huîtres.
Vous savez pas faire ?
Non.
Non ? Ah, je peux pas vous aider.
Je peux demander au poissonnier de faire.
Non, mais vous parce que c'est pas difficile, mais il faut apprendre.
À la radio, je peux pas vous l'apprendre, c'est clair, c'est un tour de main. Le poissonnier, en revanche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous les ouvrir, en effet, les mettre
c'est
dans un petit plat en polystyrène, et youpi, vous rentrez avec ça du marché. Évitez de le trimballer dans tous les sens, quand même, il faut que les huîtres gardent leur eau, vous allez voir, c'est important. Chez le poissonnier, toujours, on met la main sur... Alors, on fait une recette pour 4 personnes, ça va faire un joli plat principal. On met la main sur un filet de saumon dans les 350 grammes, un filet de dorade dans les 350 grammes, et nos huîtres, il en faut simplement 8 au total.
Okay, ça va, on ne va pas se ruiner.
Là, on a tout. Qu'est-ce qu'on fait une fois à la maison ?
Alors, à la maison, vous allez prendre donc 4 huîtres que vous allez délicatement hacher avec un couteau très bien aiguisé.
Hacher des huîtres vivantes ?
Le poisson, vous lui enlevez éventuellement les arêtes qui restent, puis vous le coupez comme ça en tout petits dés, et ça, vous réservez, comme on dit, au frais. Les huîtres hachées d'un côté, le saumon, la dorade, tout ça en petits dés. À peine salé, et vous allez maintenant ciseler un petit bouquet de ciboulette. Si vous avez envie, non, c'est pas si vous avez envie, c'est un ordre.
C'est obligé.
Faites une petite mayonnaise maison maintenant, et au tout dernier moment, voilà, juste avant de passer à table, eh bien, vous allez assembler tous ces ingrédients. Ok.
Là, ça doit être pas mal.
Si j'ai bien compris, il reste encore 4 huîtres.
Ah oui, alors, c'est
absolument,
vrai.
Thierry, on ne les oublie pas, elles arrivent à la fin.
Qu'est-ce qu'on va faire
l'idée,
des 4 huîtres
eh ben, vous prenez tout simplement votre saumon, votre dorade, vos huîtres qui sont en petits dés. Vous ajoutez un soupçon de jus de citron jaune, 2 belles cuillerées à soupe de mayonnaise, votre ciboulette. Vous rectifiez évidemment l'assaisonnement en sel et en poivre. Vous mélangez bien dans un petit saladier. Il faut que ce soit bien lié, bien enrobé. Et là, vous ouvrez les 4 dernières huîtres qui restent, Thierry. Vous ajoutez leur eau à ce tartare, pour avoir quelque chose de bien fort, bien marqué en iode, vous mélangez une dernière fois, et là vous dressez le tartare en dôme dans 4 assiettes creuses,
et
vous
là,
disposez une huître sur chacun de ces dômes, et c'est prêt, et si vous voulez Thierry ajouter, n'hésitez pas, quelques petits œufs de saumon par-dessus, une petite touche un peu chicot.
C'est peut-être un peu cher l'entrée, mais
c'est vachement bon.
Et je vois quoi
C'est dimanche, et là-dessus, on a du chablis, mon Thierry, on s'en sert. On est blanc.
Un truc un peu minéral, tient bien debout.
Oh,
bah écoutez, c'est bien tout
c'est
ça, ma foi.
Ça
la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un court instant. De qui s'agira-t-il? Bien sûr, c'est les deux filles, puisque les garçons ont parlé. Donc en l'occurrence, Laetitia et Églantine, ou Églantine et Laetitia, dans l'ordre que vous voulez, à tout de suite.
Maison Jardin Cuisine Brocante sur RTL.
Il est 9h45.
La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, tout d'abord avec la brocanteuse Églantine Émeillet. Quand Ange Églantine, les Anglais redébarquent à Calais.
Exactement.
Pour acheter du vin et des alcools.
Pas du tout. L'année dernière, je vous avais présenté les meilleures brocantes londoniennes pour les routards qui n'avaient pas peur d'user leur godillot.
C'est vrai.
Tellement le choix était vaste. Eh bien, cette année, ça va être beaucoup plus simple. Ce sont les Anglais qui viennent à nous. Brocanteurs et antiquaires d'Outre-Manche seront à Calais le samedi 28 avril prochain. Ce sera d'ailleurs la 17e fois en fait. Hein.
Oui,
et ça,
même.
Grâce à l'association Twin Fair qui célèbre l'amitié franco-anglaise.
Églantine, il y a beaucoup d'exposants ?
Alors une cinquantaine qui prépare quand même cette manifestation depuis longtemps, de nombreux mois, et qui va présenter des objets qui évoquent le plus l'Angleterre dans notre esprit collectif. C'est donc une belle occasion pour moi de vous parler dès aujourd'hui des objets de la brocante anglaise.
Il
y a aussi ça évidemment.
Des mugs, non ?
Alors durant les précédentes éditions, on a vu de vieux téléphones à cadran qui côtoyaient des longues vues en cuivre et en bois, le tout à côté d'un magnifique et non moins rétro Map Monde du plus bel effet. Ça reste donc
ça
aussi éclectique que chez nous. Mais il y a un genre d'objet qu'on ne trouve que chez nos amis anglais, je vous laisse deviner.
Certainement les objets qui ont trait à la famille royale.
Édition spéciale,
les sceptres et tout ça.
Édition spéciale de mugs, statuettes à l'effigie des mariages princiers, des naissances, voire des tragédies comme la mort de Diana. Ce sont des objets qui attirent toujours les Anglais sur les étals des brocanteurs et pourquoi pas les Français qui sont nombreux à collectionner ces objets avec beaucoup d'humour.
Allez, ne faites pas semblant, Églantine. Qu'est-ce qu'elle a chez elle?
J'avoue, j'ai des mugs. Kate et William, mais on me les a offerts et je n'en fais jamais un cadeau. Non, plus sérieusement, nos amis britanniques ayant un penchant particulier pour la vaisselle en faïence, vaisselle d'ailleurs que je trouve toujours très élégante, je suis certaine que les stands seront bien pourvus ces objets.
C'est l'argenterie britannique.
C'est d'un chic.
C'est beau. Oh là là.
C'est magnifique. Il y a aussi beaucoup de mobilier en bois massif. Il y en a, je vous le dis, pour tous les goûts, y compris pour les goûts, puisque seront aussi proposer des spécialités culinaires comme de la marmelade en petits pots.
Ça, c'est délicieux.
Et pour les plus courageux, vous connaissez la Marmite.
C'est épouvantable.
Fameuse pâte à tartiner créée en 1902 au goût indéfinissable.
C'est un peu ça.
Enfin, je ne sais pas. Alors, en tout cas, les Australiens se damnent pour ce truc-là qu'ils ont inventé, les malheureux. Il existe d'autres endroits en France où on peut acheter des objets britanniques. Moi, j'ai une très belle adresse à Bordeaux, dans la rue où j'habite, rue Gris. Il y a un antiquaire qui ne fait que des objets britanniques.
Ah, d'accord.
Objets britanniques.
Antiquité. Alors, moi, je vous envoie, parce qu'évidemment, les particularités de chaque pays sont appréciées des deux côtés de la Manche. Donc, il y a beaucoup de brocanteurs anglais et des Français qui font régulièrement le trajet dans les deux sens pour rapporter des trouvailles. Moi, j'aime beaucoup le vieux chaudron à Lanbert, dans les Côtes d'Armor, qui propose de très jolis meubles. Il y a aussi la brocante anglaise à Benoîtville, en Normandie. Plein de jolis objets, notamment en rapport avec le jardin, Thierry.
Un
hobby très populaire outre-Manche. Ce sont deux exemples parmi bien d'autres. Je vais vous mettre quelques adresses sur Internet.
Bien sûr, Calais, donc fin avril.
Oui, le 28 avril à Calais, la 17e Twin Fair, la double foire en français.
La double foire à Calais, donc fin avril. Quant à vous, Laetitia Nallet, ça fait un moment que je vous regarde, vous avez l'air un peu inquiète.
Oui, c'est vrai, je ne suis pas très à l'aise là. J'ai un peu peur que Thierry ne finisse par me remplacer.
En déco.
Pour parler de déco.
Oui, il risque de me voler la vedette.
Possible, hein.
Parce que le végétal est de plus en plus présent dans la déco.
Laetitia, rassurez-vous, vous êtes irremplaçable. Et vous avez déjà parlé avec brio de choses aussi charmantes que les fleurs stabilisées et les murs végétalisés.
Mais si, c'est bien. J'ai aussi parlé des plantes vertes ringards, redevenues gracieuses dans nos intérieurs. Oui. Et ça continue avec les dernières stars de la déco, les fleurs séchées.
Les fleurs séchées.
Ah, moi, j'adore ça, vraiment, mais je me fais pourrir la tête par tout le monde en me disant c'est horrible.
Mais c'est des attrapeurs.
Personne ne va vous dire ça, Bernard.
Il y a des fleurs séchées chez vous, Bernard.
Il y a des fleurs séchées. Non, il y a des fleurs fausses,
fanées.
Des fausses.
Ah, c'est pas pareil.
Non, ça n'a rien
à voir. Là, je parle de fleurs séchées. Ça va très bien avec le discours éco-responsable, puisqu'on arrive aujourd'hui à les remettre au goût du jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de gaspillage. Déjà, la fleur est presque immortelle. Moins de travail. Inutile de changer l'eau du vase, puisqu'il n'y en a pas. En plus, les couleurs changent et évoluent avec le temps. Alors, j'avoue, au début, j'étais un peu perplexe. Moi, j'ai le souvenir de paniers en osier remplis de brassées fleurs séchées suspendues dans la cuisine.
C'est exactement ça. C'est des nids à poussière.
Nids à poussière, voilà.
Ça tombe de temps en temps.
C'est vrai, mais n'empêche qu'elles sont revenues à la mode parce qu'elles sont vintage, rétro, désuètes, et vous allez en voir partout. Pour preuve, la jeune start-up Pampa, qui vend des bouquets de saison chaque semaine et les livre à vélo dans Paris, eh bien cette société a remarqué que les gens gardaient leurs bouquets frais de saison en les faisant sécher. Du coup, Emmanuel et Noélie, les deux jeunes trentenaires, ont créé des compositions de fleurs séchées sous cloche. Et là, ça devient vraiment un objet déco à poser sur une étagère.
C'est vrai.
À peine mis en ligne, elles étaient en rupture de stock.
Mes globes de Mariette Brocante vont repartir à la hausse.
Carrément de la gueule.
Ça a de la gueule.
C'est joli,
c'est vrai, vous dire.
Alors voilà, le système, c'est de mettre des fleurs plutôt basses pour couvrir le socle, et puis des fleurs plus légères, plus floues et plus hautes qui épouseront la forme de la cloche en se collant à la paroi vitrée.
Très bien. Ça.
Alors comment on fait sécher son bouquet en fait ?
La tête en bas.
En le privant d'eau, la tête en bas. Méthode simple, vous le laissez dans un vase, mais sans eau. Méthode de puriste, le bouquet, la tête en bas, comme vous l'avez dit, Bernard, dans une pièce sans lumière. Et puis vous enlevez les feuilles abîmées, vous nettoyez les tiges si besoin, tout doucement avec un chiffon.
Ça marche vraiment le chiffon, par exemple, quand il y a des toiles d'araignée, quand
vous avez une ferme de nettoyer
un peu. Sur un joli petit bouquet bien délicat, on enlève la poussière avec un pinceau, même avec un sèche-cheveux, mais sur le mode froid. Autre méthode, avec la vapeur, vous faites bouillir de l'eau et vous passez les fleurs au-dessus pour décoller la poussière.
Ah, c'est pas bête, ça tient. En déco spécifiquement, il y a des choses à imaginer ?
Mais oui, plein. C'est tellement beau, regarder dans un vase, par exemple. Alors, sous cloche, on l'a dit, dans une caisse, un panier. Le tiroir d'une commode qui serait ouvert sur une embrasse de rideau accrochée à la poignée d'une porte. Les fleurs séchées aussi, c'est une bonne idée pour un mariage. Vous pourrez par exemple préparer le bouquet de la mariée à l'avance.
Bouquet de mariée de fleurs séchées, c'est super joli,
très raffiné.
Avec risque que ça capote.
Attendez, vous rigolez, mais ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, avec notamment des couronnes de fleurs séchées dans les cheveux, pour un style bohème chic.
D'accord.
Et les fleurs séchées permettent à nos bouquets de durer. À vous d'être créatif. Et franchement,
on n'est pas toujours obligé d'imiter les anglo-saxons aussi.
Non, mais là, c'est très, très beau. Vous allez en voir partout.
Mais il faut les faire sécher dès qu'on a le bouquet frais ou il faut attendre
frais et il ne faut pas attendre le dernier moment.
C'est ça, il ne faut pas attendre que ça commence.
Voilà, pas un bibé d'eau, exactement.
Ah, Thierry, là, il a l'air de dormir, mais en fait, il est très, très attentif et il intervient à bon escient. Mes amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous bien. Cartel est l'essentiel. Revenez samedi prochain.
Avec plaisir.
Dans 7 minutes exactement, Yann Bouchery sera là pour le journal. Mais auparavant, Routard, Perrault et Météo jusqu'à mercredi, s'il vous plaît. Et que dis-je ? Ce sera dans 8 minutes, le camarade Bouchery. À tout de suite.
RTL Matin.
Avec Bernard Poirette.
Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte.
Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490 €.
C'est une 5 portes ?
Oui, 6 490 € avec 5 portes et vitre avant électrique.
Et elle bénéficie de la prime à la conversion ?
Évidemment, et du bonus EcoFiat.
Mais elle a combien de kilomètres ?
Elle est neuve madame.
Fiat Panda est à partir de 6 490 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 avril sur Panda 1 litre 2, détails sur fiat.fr.
Fiat.
Charolaise.
Limousine.
Blonde d'Aquitaine.
Aubrac.
Salaire.
Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés.
Alors, monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la limousine.
Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Hein. Au final, on a une viande d'exception, quoi.
C'est-à-dire ?
Ah ben, un goût incomparable, hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment.
Vous êtes un défenseur du goût, en fait.
C'est ça. Alors moi, c'est de la limousine, hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salaire ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la blonde d'Aquitaine ou de la charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées.
Bazadaise.
Blanc bleu.
Rouge des prés.
Parthenaise.
Gascogne.
Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé.
RT.
RTL Matin, il est 9h53, on va donner la réponse à la question de tout à l'heure du routard.
C'est étrange, mon Dieu, c'est en rapport avec Berlin.
Bah oui, Yann Tiersen.
Ah, Tiersen.
Goodbye Lénine.
D'accord, voilà. C'est lui qui a fait la BO de Goodbye Lénine.
C'est lui qui a fait la BO, absolument.
J'avais complètement oublié. Alors la question était simplissime, hein. En quelle année le mur de Berlin
sous l'hélicoptère
tombé. Oui, j'ai vu le film, je ne me souviens pas de la bande-annonce, de la bande originale. Et ça, c'était facile, hein. Quelle année?
Bah, 89.
89.
Évidemment, novembre. Une des plus grandes dates de l'histoire contemporaine. Et c'est le slogan Berlin est une capitale pauvre mais sexy, oui. C'est Klaus Wowereit qui était maire de Berlin. Et c'est Marc, qui est un auditeur qui nous écoute de Berlin,
oui, qui m'a envoyé par SMS la réponse.
Exactement.
En 2003, donc c'est là
ouais,
qu'il a dit
qui avait
ça.
Pris
qui a gagné aujourd'hui les trois guides?
Ce slogan faisant référence à la culture pop de la décadence comme mode de vie. Les trois gagnants, Nadine Cabasson de Mérignac en Gironde, André Valserdin de Paris et Nicole Lerin de Brest dans le Finistère.
Voilà.
Trois guides du routard. Il y en aura six autres le week-end prochain.
Je suis sûr qu'il y en a bien un des trois qui va demander le guide de Berlin. Ce serait quand même la moindre des choses.
Qui demande l'Allemagne, il y a
toute l'Allemagne.
Vous écoutez RTL.